Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue en direct sur le studio Kalangou. Nous sommes lundi 7 octobre 2019. Le journal en français, c'est tout de suite. Et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Célébration ce jour 7 octobre de la Journée mondiale de l'habitat. L'État du Niger s'investit pour que tous les Nigériens aient accès à un toit. Les explications du ministère des Domaines de l'Urbanisme et du Logement dans ce journal. L'extension de l'aérodrome de Dirkou suscite beaucoup de colère. Les villageois de Chimidour, à proximité de Dirkou, sont sortis pour manifester leur mécontentement mercredi dernier. Les travaux sont suspendus, on en parle tout de suite. La rubrique de tous les lundis avec les questions juridiques nous amène à la découverte de l'article 237 du code pénal nigérien qui parle du meurtre. C'est dans la partie magazine de ce soir. Au micro, Djalou Mariama Kenda. Les nouvelles technologies de pointe comme outils innovants dont la transformation des déchets en richesse. C'est le thème de la Journée mondiale de l'habitat célébrée ce 7 octobre. L'État du Niger s'investit pour mettre sa politique en œuvre afin que tous les Nigériens accèdent à un toit, déclare Abdou Chebou, directeur général de l'urbanisme et de la promotion de logement au ministère des Domaines de l'urbanisme et du logement.
L'État a pris des dispositions pour avoir assez de terrains qui sont mis à la disposition des promoteurs immobiliers pour venir construire, aider la politique du gouvernement. Ces terrains sont donnés gratuitement aux fonctionnaires de l'État. Ça va permettre quand même d'amoindrir le coût. Deuxième étape, ces promoteurs immobiliers bénéficient donc de la loi sur les partenariats publics-privés qui donne à ces promoteurs l'exonération fiscale et douanière. Le programme présidentiel, c'est 25 000 logements d'ici 2021. Nous sommes en train de nous atteler pour quand même atteindre cet objectif. Évidemment, ces logements sont pour l'ensemble des Nigériens. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Il y a eu déjà la signature de deux conventions totalisant 1 550 logements. Ces conventions sont déjà en exécution actuellement ici à Niamey.
À propos recueilli par Asmana Shina, la communauté Igdalan a tenu un forum hier à Niamey pour la reconnaissance de sa langue comme l'une des langues nationales parlées au Niger. Cette communauté, peu connue au Niger, est proche des Touaregs et leur langue est proche du Zarma Soreille ou encore les Ngalawa. Selon Intinikar Alassane, membre de cette communauté, la reconnaissance de Tagdal suit bien son cours. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
La communauté nationale des Igdalan a demandé la reconnaissance de notre langue, le Tagdal, de la classer parmi les langues nationales du Niger. Et ce processus, on l'a débuté depuis 2009. Finalement, hier, le ministre de l'Intérieur, il avait dit qu'il a donné son accord pour que cette langue soit reconnue, car c'est un droit constitutionnel. Les processus sont en cours au niveau de l'Assemblée. Ils ont fait un projet de loi qu'ils ont transmis au gouvernement. Et le gouvernement a pris ça en main. Ils ont créé un comité d'enquête et ce comité a déjà entamé son travail.
Les bruits nocturnes de l'importante poussière soulevée par les concasseuses de pierre pour l'extension de l'aérodrome de Dirkou ont poussé les villageois de Chimidour à proximité de Dirkou à sortir mercredi pour exiger la délocalisation de ces concasseurs. Aussitôt, les responsables de l'usine et les autorités locales sont allés à la rencontre de ces manifestants pour les écouter, a déclaré le porte-parole des villageois, Abda Lelego, joint au téléphone par Adama Dawaki.
Nous avons manifesté, ce n'est pas parce qu'on est contre la construction de l'aéroport. C'est vraiment l'emplacement de cette usine-là fait en sorte que chaque jour, nous aspirons des tonnes de poussière. Et il y a aussi des bruits des machines. Ils travaillent pour la plupart la nuit. Au moment où nos parents se reposaient, c'est à ce temps-là que les bruits commencent. Nos parents sont dérangés. Les chacals, ils n'ont que leur terroir sous ces falaises-là. Avec les bruits, ils n'ont plus d'abri là-bas. Chaque jour, les gens se plaignaient de la perte d'une chèvre ou d'un bébé chèvre. On vivait sur des menaces des scorpions par-ci par là. Il n'y a même pas une semaine de cela, une petite fille de moins d'un an a été piquée par un scorpion et elle est décédée malheureusement. Ils disent que c'est une entreprise appelée Issa Issou. Donc voilà, on est sorti et vraiment, c'est bien. Automatiquement, ils étaient les premiers à venir nous rencontrer. Donc ils nous ont rapprochés, nous ont demandé quelle est notre vision. Nous avons dit que vraiment, notre seul souci, c'est de délocaliser ces machines-là, de les transporter et de les amener à l'ouest.
Le gouvernement nigérien a dissous vendredi les conseils municipaux de la commune urbaine de Filingué, des communes rurales de Koufei Centre et de Guidansori dans le département de Guidamrongi. Selon le communiqué, plusieurs irrégularités et pratiques frauduleuses dans la gestion administrative, financière, comptable et foncière des dites communes ont été relevées par des missions d'inspection, créant un blocage qui porte gravement atteinte aux intérêts de ces collectivités, ce qui justifie ces dissolutions conformément à l'article 177 du Code général des collectivités territoriales, a expliqué le gouvernement. Amener les dirigeants africains à éviter de modifier la constitution de leur pays pour s'éterniser au pouvoir, déclare le directeur régional pour l'Afrique du National Democratic Institute, NDA. C'est l'objectif de la tenue de la semaine dernière à Niamey de la conférence internationale sur le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique organisée par le NDA et ses partenaires avec la participation active d'anciens chefs d'État africains. Le directeur régional du NDA, Christopher Fomigno, est interrogé par Nafissa Adamo.
Même pendant des moments difficiles où la démocratie a été mise en difficulté, on a senti que les populations nigériennes sont vraiment attachées aux principes et aux valeurs démocratiques. Au fur et à mesure que la démocratie est consolidée dans le pays, il est important que cette consolidation soit reconnue par la communauté internationale également. Pour nous, il était important que le sommet de cette envergure se tienne dans un pays qui prépare aussi une alternance dans un horizon assez proche. Nous avons réuni vraiment les sommités de l'exercice du pouvoir politique en Afrique, dont les anciens chefs d'État qui ont vécu l'expérience de l'exercice du pouvoir politique et qui par la suite aussi ont cédé la place à d'autres personnes qui sont arrivées par la voie des urnes. Nous avons eu des échanges très fructueux, ce qui fait que à la sortie, nous avons trouvé une déclaration qui renforce notre engagement à sensibiliser les populations à travers les différents pays du continent sur cette thématique pour que ces populations ne se laissent plus entraîner dans des démarches qui feront l'enfant à la consolidation de la démocratie.
Renforcer la collaboration entre l'Institut national de la statistique INS et les médias dans le cadre du développement de la culture statistique au Niger. C'est le but visé par la rencontre samedi à Niamey entre hommes des médias et responsables de l'INS. Des précisions avec la responsable de la communication de l'INS, Amadou Ousmane Aïcha, interrogé par Michel Dedji.
La statistique est un excellent outil d'aide à la décision et c'est donc pour développer la culture statistique au Niger que nous avons décidé de collaborer beaucoup plus avec les journalistes afin que vous soyez les relais de cette information statistique-là auprès de la population. Parce qu'on ne peut vous demander d'être relais sans que vous n'ayez d'abord vous autres compris. Ensuite, vous savez bien que nous avons pour mandat, nous à l'Institut, de produire les statistiques officielles et de les diffuser. Donc, les attentes de l'INS, c'est lorsque vous produisez vos éléments, que vous décidez de les autofaire avec des chiffres, que vous preniez la peine de venir à la source officielle, vérifier si l'information est exacte avant de la diffuser.
Donné suite au communiqué de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'CIA du 3 octobre ayant relevé des fraudes sur les volets d'exportation et transit des hydrocarbures ainsi que sur l'édition du permis biométrique, c'est l'appel lancé samedi à Niamey par le Syndicat national des conducteurs de taxi. Écoutons à cet effet le secrétaire général du Synco Taxi, Mahamadou Gamache, au micro de Michel Dedji.
Avec le communiqué de la Halisa, je pense que le président de la République va donner suite à cette situation. Les 10 milliards et demi détournés et autres fraudes qui n'ont pas été dites dans ce communiqué. Maintenant, par rapport au premier point qui fâche, nous disons au gouvernement ou au procureur de la République de continuer à fouiller, à traquer les auteurs, les co-auteurs et les complices qui ont voulu mettre le pays dans une situation comme celle que le Niger a connue dans l'affaire de Africa Card. Nous demandons au gouvernement et au président de la République de mettre fin à cette escroquerie en suspendant cette société et refaire un autre appel d'offres pour nous trouver une société sérieuse, à défaut de laisser les agents des ministères des transports de nous éditer des permis biométriques.
Un incendie s'est déclenché dans la nuit du samedi au dimanche matin au petit marché de Dosso. Plus de la moitié des boutiques ont brûlé suite à cet incendie dont on ignore l'origine. Le maire de Dosso, Idrissa Youssoufou, au micro de Aoussi Abdourahman.
Nous ne connaissons pas encore l'origine de cet incendie, mais nous pensons que c'est un court-circuit électrique. Les sapeurs-pompiers nous édifieront sur ce sujet après leurs enquêtes. Nous avons pu sauver beaucoup de biens grâce à l'effort des jeunes, des adultes, en un mot, tout le monde. Il n'y a pas eu de vol. Dieu merci, personne n'a songé à s'emparer des biens d'autrui. Vous voyez, ils ont entassé toutes les marchandises de ce côté. Nous ne déplorons aucun brûlé ni de décès dans ce drame. Certes, il y a eu d'énormes dégâts matériels, mais nous implorons l'assistance du Tout-Puissant pour ses victimes et qu'il préserve tous les marchés de la commune de Dosso de telles tragédies.
À Tessawa, dans la région de Maradi, les femmes portent une très grande part de la charge familiale lors des cérémonies très coûteuses des baptêmes et des mariages. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les ménages, selon le chef de canton de Tessawa, Mansour Kani Megizo. La réponse à cette préoccupation passe par l'autonomisation de la femme, a-t-il déclaré au micro de Mokhtar Amadou.
Si vous trouvez que quelque chose est cher pour vous, c'est parce que ça va au-delà de vos moyens. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis en train de faire des efforts, des recherches partout où je vais, en voyage et tout lors de grandes conférences pour qu'on trouve de quoi faire aux femmes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Elles ont une très grande part des charges familiales ici au niveau du monde rural. Alors même lorsque les hommes vont en exode, les femmes restent et prennent en charge les enfants dans des conditions très difficiles. Et cela crée beaucoup de problèmes au niveau des ménages où nous recherchons toujours des voies et moyens pour qu'elles puissent faire face à certaines choses qui permettront aussi à leurs enfants d'aller à l'école, d'étudier et aux femmes de prendre en charge toutes les dépenses liées au quotidien de leurs enfants jusqu'à leur mariage. Il est vrai que selon les sociétés, le mariage a un coût, mais tant qu'on arrive à donner aux gens les moyens de se prendre en charge par eux-mêmes, certaines choses deviendront assez faciles pour elles.
La partie magazine de ce journal à présent, le meurtre est défini à l'article 237 du code pénal nigérien. L'auteur d'un meurtre risque la prison à vie et même la condamnation à la peine de mort si les circonstances aggravantes sont prouvées dans les cas de parricide, d'empoisonnement et d'assassinat. Les peines applicables varient en fonction de la forme du meurtre, suivant une procédure pénale, explique le magistrat Ayouba Hassan, interrogé par Bakissa Amidou dans la rubrique « Justice du lundi ».
Le meurtre est tout acte commis volontairement en vue d'attenter à la vie d'une personne déterminée. Le meurtre peut prendre diverses formes, fait remarquer le magistrat Ayouba Hassan.
On entend par meurtre tout acte commis volontairement en vue d'attenter à la vie d'une personne déterminée. Il est défini à l'article 237 du code pénal. Le meurtre peut en effet revêtir plusieurs formes. Il y a d'abord le meurtre simple, le meurtre qui est commis sans circonstances aggravantes. Et ensuite, le meurtre commis avec des circonstances aggravantes comme la préméditation, le guet-apens. Un tel meurtre est qualifié d'assassinat. La préméditation est en effet le fait de préparer en avance son intention d'attenter à la vie d'autrui. Le guet-apens consiste, lui, à attendre en un lieu donné pendant un certain temps un individu bien identifié en vue de lui donner la mort. Il y a aussi le meurtre qui est qualifié de parricide qui a été commis sur la personne de père et mère légitimes, naturels ou adoptifs. Le meurtre commis avec l'administration de substances nocives et lui qualifié d'empoisonnement. Il y a aussi l'infanticide qui est le meurtre ou l'assassinat de nouveau-né par sa mère légitime. Toutes ces formes de meurtre sont punies par la loi et des peines leur sont applicables.
Quelles sont les peines applicables à ces formes de meurtre?
Le meurtre simple est puni d'un emprisonnement à vie. Quant à l'assassinat, au parricide et à l'empoisonnement, c'est la peine de mort.
Monsieur le juge, qui prononce ces peines?
Ces peines sont prononcées par la cour d'assises, qui est une juridiction composée de magistrats professionnels et de jurés populaires. Elle se réunit après saisine par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. En matière de procédure pénale, tout dossier de meurtre est d'abord traité par un juge d'instruction qui a pour mission d'approfondir les investigations. Après, il dira s'il y a oui ou non des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne accusée. S'il estime qu'il y a des indices graves et concordants, il rend une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel qui va donc saisir la chambre d'accusation.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.